à tous et nous revoilà pour la sixième émission, le sixième opus de Place aux idées, l'émission des Amis du Parc, présentée, co-animée avec moi par Véronique Morel, qui est chargée de mission des Amis du Parc. Bonjour Véronique.
Bonjour Sophie.
Aujourd'hui, nous recevons Daniel Pessonnery et Stéphanie Courfortune de la Société Coopérative Agoraguier. Bonjour Daniel et Stéphanie.
Bonjour Sophie.
Bonjour Sophie.
Et nous allons parler aujourd'hui des tiers-lieux en zone rurale. Alors Véronique, qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu, un mot un petit peu mystérieux. On va voir ensemble qu'est-ce qui se cache là derrière. On vous explique tout dans quelques minutes. Alors en fait, les tiers-lieux, je pense que vous en connaissez déjà tous, sans savoir peut-être que ça s'appelle un tiers-lieu. Et la première définition qu'on pourrait proposer d'un tiers-lieu, c'est un lieu qui n'est en fait ni le travail, ni la maison. C'est un entre-deux, quelque chose entre les deux. Même si ça ne suffit pas à les définir complètement, évidemment, on va voir qu'il y a énormément de définitions. Daniel, Stéphanie, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour introduire cette notion de tiers-lieu ? Qu'est-ce que ça peut évoquer comme mot-clé ?
Bah effectivement, comme tu l'as dit, cet entre-deux, il faut l'inventer. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que c'est vraiment un lieu où la créativité a toute son importance. Pour moi, c'est un espace de liberté et un espace qui va permettre de développer quelque chose qui fera sens pour la communauté qui l'habitera. Voilà. Mmh.
J'ajouterais que, puisqu'on a contribué à la création de cet espace, qu'un tiers-lieu, c'est un lieu, déjà pour commencer. Donc ça suppose des murs, et c'est un lieu où fondamentalement on va faire ensemble un certain nombre de choses, quelles qu'elles soient. On va construire, on va réaliser des projets, on va écrire, on va partager de la culture, que sais-je.
Donc c'est vraiment un espace partagé et collectif où on vient à plusieurs. Hein. En général, on ne vient pas pour y être tout seul, on vient pour y rencontrer des personnes. On vient pour y créer des choses, pour apporter des projets, pour mener à bien ses idées. Donc c'est un espace aussi qui peut être innovatif.
Alors moi, j'ai quelques définitions des tiers-lieux pour concrétiser un peu plus les choses. Ça peut être des cafés, des librairies, des bars qui permettent des rencontres dans un cadre convivial et accessible, créateur de liens. Et par extension, le terme de tiers-lieu de travail renvoie aux nouvelles alternatives d'espace de travail, mais pas que. Je vous laisse rebondir là-dessus, Daniel et Stéphanie.
C'est toute la complexité de définir effectivement un tiers-lieu. Alors, il y a toute une panoplie de tiers-lieux. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 2000 en France à l'heure actuelle. Dans ces tiers-lieux, il y a des espaces, beaucoup, la plupart sont en zone urbaine, il faut quand même le savoir, où on va avoir une population de geeks, hein, de gens très portés sur tout ce qui est Internet, tout ce qui est numérique. C'est généralement le plus fréquent en milieu urbain. Mais on peut avoir d'autres cas de figure. Et en milieu rural, par exemple, effectivement, vous avez évoqué des cafés, des épiceries partagées. Hein, c'est assez souvent le cas. Alors, ça va être une épicerie avec des produits faits sur place. Donc, c'est souvent ce cas de figure. Mais une librairie peut très bien être également un tiers-lieu. Donc, il n'y a pas de typologie précise de tiers-lieu.
Alors on en parlait tout à l'heure un peu en off, effectivement. Ce qui fait tout le charme de ces tiers-lieux, c'est que c'est pas normé. Il n'y a pas de petite case et tout est possible et tout est imaginable finalement.
Oui, c'est vraiment ce que sont les individus qui le fréquentent, leurs couleurs humanistes et leurs envies qui vont permettre de développer... la caractéristique ou les caractéristiques et ça peut évoluer aussi au fil du temps. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas stabilisé dans le temps. On est vraiment avec la volonté qu'il y ait une évolution et que ça suive les expérimentations au fil du temps.
On n'est vraiment pas dans du copier-coller, là, pour le coup, Véronique.
Non, on est dans une zone très, 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 très hybride où, effectivement, ça repose sur la communauté, le réseau, les personnes qui viennent fréquenter ces lieux et qui apportent leurs compétences, leur volonté de conduire des projets, leurs attentes, etc. C'est ces personnes-là qui constituent la communauté autour du tiers-lieu qui vont, en fait, définir la couleur qu'il va prendre, effectivement.
Et c'est assez génial parce que ça ouvre vraiment tout un monde de possibilités et en même temps ça peut être un petit peu dérangeant parce qu'on pour certains qui ont l'habitude de la norme, ça peut être dérangeant, on ne sait pas trop ce qu'on peut y trouver.
On sort des cadres établis.
On sort des cadres. Et quand on pense qu'on a compris sur la base d'un exemple, en fait on n'a pas compris parce que l'exemple d'à côté est complètement différent.
Oh, je vais vous donner effectivement pour l'anecdote un exemple dans le cadre d'une rencontre qu'on a eue il y a un mois à peu près à Grenoble, où une communauté de personnes avait l'intention, et ont toujours l'intention, de créer un tiers-lieu sur la thématique d'aider les personnes immigrées. C'est pas en Chartreuse, c'est dans le Grésivaudan.
Non, là aussi en Chartreuse.
Non, des personnes immigrées à s'intégrer donc par la langue, par les habitudes, dans notre pays. Hein, donc, ils avaient ce souci pédagogique, mais en même temps de donner les bonnes adresses. Donc, vraiment, non pas pour, je dirais, dans un esprit exclusivement politique, mais fondamentalement pour aider ces gens-là à s'intégrer efficacement et se trouver bien chez nous.
D'accord. Et si on prend, du coup, l'exemple d'Agora ?
Ah, je vais laisser ma...
Agoraguier, à Pont-de-Beauvoisin, donc, pour situer.
Alors effectivement, dans un premier temps, pour rassurer, Agoraguier, c'est un espace de coworking donc, qui permet aux travailleurs indépendants de trouver un espace de travail, sortir de chez soi. Et effectivement, il y a la question de se construire un réseau, de travailler en étant moins isolé qu'en étant chez soi. Mais à côté de ça, il y a toute une palette d'envies à développer. C'est un espace dans lequel il y a régulièrement des expositions de peinture, d'art. Régulièrement, les expositions changent. Donc, on vient y trouver un peu d'originalité artistique au fil du vent et des exposants, des artistes. C'est un espace aussi où beaucoup vont toquer à la porte pour trouver un soutien alors qu'ils sont en phase de création de leurs entreprises individuelles. Donc, ils savent bien que comme il y a un certain nombre de personnes qui viennent là, qui ont déjà l'expérience, ils pourront trouver de l'aide, un appui, un lieu ressource, de l'aide à leur propre développement de projet. Ça peut être un espace aussi où on a de l'internet, on va dire, de façon efficace. Hein, sur nos territoires ruraux, c'est pas forcément
performant.
Le cas. Une forme de performance, parce que même s'il y a la fibre à Agora, parfois c'est quand même difficile en termes de qualité. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette idée-là. On a fait installer la fibre pour qu'il y ait une efficacité au niveau du travail quotidien pour les gens qui vont venir. C'est un espace convivial. On peut travailler. Il y a une table, il y a un bureau, des chaises.
Il y a un café, des biscuits.
Mais il y a aussi, voilà.
On peut manger le midi, amener sa nourriture. Il y a une notion qui, dès le début aussi, a été essentielle dans la constitution d'Agora. C'est la notion de transversalité. C'est-à-dire que, fondamentalement, on a considéré qu'il n'y avait pas des cases préétabli avec des gens qui étaient des personnes qui étaient dans le monde économique, certains qui étaient dans le monde culturel, d'autres qui étaient dans le monde social. On a essayé de faire tomber les barrières en quelque sorte. Je vais en donner deux, trois exemples, au moins deux, dans le cadre de l'exposition qu'on a faite, qui est en cours d'ailleurs. L'artiste peintre est en même temps art-thérapeute. Donc, et elle nous a expliqué tout autant, je dirais, sa démarche artistique, qui était préalable à sa vocation professionnelle, que ce qui l'avait amené à l'art-thérapie, donc au travers d'une conférence. Et on s'aperçoit que toutes ces notions de thérapie sont... aujourd'hui rencontre un vrai succès auprès de la population qui cherche... à dépasser les complexités, les difficultés de la vie aujourd'hui par des moyens thérapeutiques que sont l'art, que sont l'hypnose, que sont voir aussi l'un des plus grands succès qu'on a eu, c'est comment bien se nourrir. Et il y a eu deux conférences qui ont réuni à chaque fois 40 personnes sur comment bien se nourrir. Donc, et qui, en plus de ça, a été animée par une coach sportive. Voilà. Donc, on est dans la transversalité, comme vous voyez.
Pour rebondir sur les enjeux de société, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'écoute, de s'écouter, mais aussi d'écoute. Et je pense que ces lieux-là, ils répondent aussi à cette nécessité-là, d'être ensemble et
des
lieux où il y a
de l'entraide. Sur les autres, d'accord.
Donc, quelle que soit l'aide qui est souhaitée, en tout cas, il faut être en capacité d'apporter, d'entendre le besoin qui est exprimé et de pouvoir y répondre en partie.
D'être en écoute active. Après, on fait ce qu'on peut, mais voilà.
Mais justement, dans les définitions que j'avais trouvées, moi, il y avait la notion de vivre une expérience sociale. C'est-à-dire, on vient ici pour... aller à la rencontre des autres et vivre quelque chose après qui peut prendre une couleur effectivement plutôt culturelle, plutôt artistique, plutôt sociale, plutôt professionnelle, plutôt... Voilà. Mais on vient vivre quelque chose dans un groupe, en fait.
D'accord. Ça m'a l'air très sympathique, ça. Et alors, en Chartreuse, Véronique, on a déjà quelques lieux ?
Oui, en Chartreuse, on a des tiers-lieux déjà, certains dont on a déjà parlé. On peut reparler avec plaisir de la Bonne Fabrique au Sapet, qui existe depuis, je pense, au moins 3 ans, il me semble. Hein. C'est à la fois... Alors, le Sapet est une commune pas très grande, hein, un gros village, on va dire. Donc, la Bonne Fabrique, c'est vraiment un lieu à la fois d'animation, un lieu de travail, puisqu'il y a un espace de coworking, une salle de réunion, des tas de choses comme ça. Mais il y a aussi un lieu d'innovation avec un Fab Lab, des machines à bois, des machines à commande numérique, des PC, des tas d'outils. Une microbrasserie avec des adhérents qui ont voulu se lancer dans la fabrication de bière. Donc voilà, il y a un investissement qui a été fait dans toutes les machines nécessaires à la brasserie.
Qui sont très bonnes, on a testé pour vous.
Qui sont pas mal du tout. Oui, je me rappelle plus comment ça s'appelle la bière, la Bonne Fabrique.
Oui, ils changent de nom à chaque brassin. Alors.
Et puis beaucoup d'activités qui sont pratiquées, beaucoup d'animations, mais qui sont proposées par les adhérents aussi de la commune. Un tel qui sait faire des sushis vient proposer une soirée sushi, un orchestre qui vient, un groupe qui vient animer une soirée, des soirées jeux, des soirées, des journées couture, des... Voilà.
Il y a fabrication d'éponges naturelles.
Oui. oui, il y a une communauté assez dynamique là-haut sur plein de plans. Et puis après, l'association de la Bonne Fabrique investit aussi pour faire venir par exemple des groupes musicaux, des films documentaires, des choses comme ça.
C'est
beaucoup de choses. Donc un premier lieu dont on avait déjà parlé, et puis plus près de nous aux Échelles, l'Alternateur, qui est à la base une recyclerie, mais plutôt spécialisée dans les arts du spectacle et la récupération de tissus, de décors, d'ameublements, de tas d'accessoires. Mais qui a aussi investi et agrandi et propose maintenant un espace de fabrication en autoproduction avec, pareil, des machines à bois, des petits ateliers. On peut venir avec son projet fabriquer quelque chose ou venir pour des séances de formation. Il y en avait sur des produits ménagers naturels, il y en avait sur de la cuisine, il y en avait, voilà, ils font plein de choses. Ils organisent un marché des créateurs à Noël. Ils accueillent en ce moment une compagnie artistique en résidence qui va faire son spectacle de sortie de résidence là dans les jours qui viennent. Donc on a tout un mix et là une communauté qui s'est plutôt créée sur le thème de la culture et de l'artisanat et du spectacle.
D'accord. Voilà.
Et puis on peut considérer aussi que le centre social des Pays du Guiers à Saint-Laurent-du-Pont est une forme de tiers-lieu puisqu'on est bien là dans un lieu à destination des habitants ou des associations qui veulent venir y mener des projets et qui sont accueillis, accompagnés et aidés. Donc on est bien dans un lieu où on peut vivre une expérience sociale, même si on n'a pas de Fab Lab, d'espace de coworking ou toutes ces choses-là, mais on est quand même une forme de tiers-lieu.
Voilà. On ne les a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ça bouillonne. On y arrivera. Bon, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve après.
So we're still, and I'm here. take it, and you can't take it. So we live with what it is, but when it ends, you said. Such a tall jam, don't you give a damn. But you see, you are my habit, you're everything I have. So we're still, and I'm here. And I can't fake it, you can't take it. So it is for what it is, and when it is. You said
Merci pour ce joli morceau, Fabien. Et on reprend le fil de notre émission avec une question, Véronique.
À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un tiers-lieu est une réussite ? Alors, on a dit tout à l'heure en introduction, un tiers-lieu, c'est d'abord un lieu. Alors, ce lieu, est-ce qu'il a des caractéristiques particulières, Daniel ou Stéphanie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? D'après vos visites, vos connaissances de plein de tiers-lieux, est-ce qu'il doit être localisé d'une façon particulière ?
On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de norme sur les tiers-lieux. Pourquoi il y aurait une norme sur les espaces qui les accueillent ? Dans tout ce qu'on a vu, et à droite, à gauche, j'aurais tendance à dire que de la même manière, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, on l'a vu aux adrets, et je pense qu'au SAPE, c'est pareil. C'est un espace ancien, plus ou moins rénové, dans lequel on va avoir un bistrot, on va faire de la cuisine. C'est un tiers-lieu. On en a vu un à Thonon-les-Bains, qui était un tiers-lieu donc, privé, où là, c'était une ancienne étude notariale de 350 mètres carrés avec une quinzaine de bureaux très chics. Très bien. Donc, positionné essentiellement dans de la location, mais aussi de la formation. Donc, c'est un tiers-lieu. Et pour vous donner un troisième type, pour reprendre des Fab Labs, moi, j'en ai vu un dans la zone à Montmélian, une zone industrielle pure, où là, on a un vrai Fab Lab et où on a sur 200 mètres carrés que des machines, des imprimantes 3D, un espace de découpe numérique, des grosses machines. Donc, c'est un atelier.
Un atelier dans une zone d'activité, du coup, c'est quand même cohérent. Il faut se mettre,
oui.
Il faut s'implanter là où l'activité qu'on propose va avoir un sens quand même.
Alors, mais maintenant, c'est une forme de tiers-lieu très particulière.
Oui, hein, oui.
Parce qu'il est axé uniquement là-dessus. Hein.
Effectivement, il me semble que l'aspect convivial est important. La convivialité qui est liée au lieu, elle est importante. Oui. Il faut qu'il y ait un canapé, qu'on puisse sortir du cadre de travail, qu'on puisse se faire
une machine à café. Voilà.
Un petit coin repas, un petit point discussion, un petit coin cosy, quoi, quelque chose de. Ouais. On se sent un peu chez soi.
Après, le plus important, ça va être l'animation. Ce qui correspond au tiers, on va dire, qu'est-ce qu'on fait exactement dans ce lieu et la façon dont on le fait. Il faut que les gens, ils auront plaisir à y venir s'ils s'y sentent bien. Donc, pour moi, l'aspect convivialité, plaisir, il est important, chaleureux.
Oui, il repose sur des personnes qui vont être là quand on arrive, qui vont nous accueillir. C'est pas un endroit où on rentre avec un badge magnétique qui ouvre la porte et on repart le soir, on n'a vu personne. On est bien d'accord.
C'est
un lieu de contact.
C'est l'écueil numéro un de certains lieux qui ont été décidés par certaines collectivités publiques en pensant réaménager, par exemple, des lieux qu'ils avaient à disposition, mais en pensant uniquement à l'aspect définition du lieu. Enfin voilà, on rénove quelque chose, on le met en valeur, mais derrière, effectivement, on va donner des badges aux entrepreneurs, aux personnes qui viendront travailler dans ces lieux, et au final, ben, il n'y a pas la plus-value qui est indispensable et incontournable de ces tiers-lieux, à savoir la présence humaine. Et voilà.
Oui, à ce moment-là, on n'est pas dans le tiers-lieu, à savoir, on n'est pas entre le travail et la maison, on est juste dans un espace de travail. Donc, c'est pour ça aussi que ce n'est pas un tiers-lieu. C'est qu'on est juste dans un espace de bureau, et voilà, on vient prendre son bureau le matin, on part le soir, mais on n'est pas dans un tiers-lieu.
Alors, vous disiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant, qui était, il n'y a aucun tiers-lieu qui ressemble à un autre. Ils ont quand même des choses en commun. Ils sont physiquement situés. On y valorise le lien social, le faire ensemble, on s'y réapproprie la production matérielle. Dans ces plateformes ouvertes de création et de prototypage d'objets, le bidouillage est roi. Au lieu d'innovation technologique, ils sont la preuve que le monde digital et le monde physique peuvent former un couple durable. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition ?
Alors, c'est à la fois vrai et quand même largement faux, parce que là-dedans, cette définition, on met surtout en avant la connotation numérique. Connotation numérique et technologique. Et je pense, même si nous, on n'y échappe pas, que c'est pas... à mon avis, c'est pas l'essentiel, j'aurais presque tendance à dire. Hein, je sais pas ce que tu en...
Alors, moi, je pense que c'est effectivement des lieux d'innovation, mais qu'il faut pas confondre innovation et technologie. Oui. Innover, c'est aussi chercher à travailler autrement, chercher à rencontrer des nouvelles personnes, chercher des nouvelles façons de fonctionner. Et on n'a pas forcément besoin pour ça de technologie, mais c'est un lieu d'innovation.
Alors,
ça,
c'est peut-être
sûr.
Plus orienté Fab Lab et Hackerspace, comme
alors,
on dit
pour
aussi.
Les lieux qui sont plus, effectivement, des Fab Labs, oui, effectivement, là, pour le coup, il va y avoir de la technologie, peut-être un peu plus. Et quand on parle de bidouiller des PC ou de, je sais pas, faire des logiciels libres, on est bien d'accord qu'on est dans la technologie quand même. Mais l'innovation, ça se résume pas à la technologie, par contre.
Moi, je partage tout à fait cet avis, parce que derrière le Fab Lab, et pour en avoir vu un pur, comme je vous ai dit, à Montmélian, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas la convivialité qui l'emportait.
Là, il y avait pas de machine dans leur ordi.
Voilà, il y avait pas de machine à café, il y avait pas de canapé, il y avait des machines sur lesquelles
imprimer.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est en ce sens que je dis, c'est une essence de tiers-lieu quand même, non pas marginale, mais en tout état de cause quantitativement marginale. C'est-à-dire autant, je dirais qu'une microbrasserie parce qu'on va être tous ensemble, peut-être voir la première coulée de bière. Ça peut s'assimiler vraiment à un tiers-lieu. Les Fab Labs Hackerspace et...
Ce sont des tiers-lieux un peu à part, alors.
C'est un peu à part, je trouve, quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, je suis d'accord, mais je pense que l'intérêt, c'est quand le lieu combine plusieurs choses. Voilà. C'est-à-dire quand les gars de la brasserie mettent leur bière au bar et que ceux du Fab Lab viennent boire un pot avec, etc. Voilà. Donc ça, du coup, c'est ça qui crée la communauté. Voilà. Parce qu'on disait l'animation, c'est important, mais du coup, c'est pour la communauté aussi.
Oui, ça, c'est un autre type de brassin. Ouais.
Oui, voilà. Oui, c'est des lieux de brassage, qu'on y fasse de la bière ou pas, mais c'est des lieux de brassage.
Ouais.
Effectivement.
Alors j'ai une définition qui s'applique peut-être plus largement aux tiers-lieux. On définit les espaces de coworking comme des tiers-lieux ayant quatre dimensions principales, économiques, une capacité à générer du revenu pour les gens qui y viennent, socio-professionnels, un lieu de référence où les professionnels d'un même domaine ou de plusieurs domaines peuvent se rencontrer, échanger et travailler, culturel, un lien où certains principes et certaines valeurs d'ouverture et de partage sont mis en avant, territorial et spatial, un lieu inscrit sur un territoire qui favorise les rencontres hasardeuses et non linéaires. Est-ce qu'on s'en rapproche, là ? Je vois Stéphanie qui hoche de la tête.
Ah
est-ce
oui,
que, est-ce qu'elle peut hocher du micro aussi ?
Des rencontres hasardeuses, ça me paraît le cas.
Oui, oui, c'est un lieu de toutes les découvertes, de tous les possibles. C'est une communauté de communautés.
Oui.
C'est vraiment, pour moi, un lieu... riche parce que il est source de découvertes et
de rencontres.
D'originalité, de rencontres. Effectivement, le Fab Lab peut être, comme l'a dit Véronique, une des composantes d'un tiers-lieu. Mais si on parle de tiers-lieu, on ne parle pas d'espace de coworking, d'espace de Fab Lab. Le tiers-lieu, il est vraiment composé de dynamiques
de
très différentes et de diversité.
En fait, voilà. Il est composé de plusieurs choses. Donc, si on n'a qu'un Fab Lab, ce n'est pas sûr qu'on soit dans un tiers-lieu.
Oui.
Si on n'a que du coworking, c'est quasiment sûr qu'on n'y est pas.
Oui.
Il faut un mix de plusieurs choses.
C'est sa diversité qui fait sa richesse et son intérêt.
Oui.
Et même après seulement un an d'existence, on s'aperçoit que la population qui fréquente Agora Gay provient d'horizons extrêmement différents. Il y a des personnes qui sont là, qui sont des graphistes. On a des personnes qui sont là dans la production culturelle, des personnes qui sont là dans le théâtral, hein, en télétravail. On a un spécialiste, j'ai découvert un cas très particulier, spécialiste du référencement sur Internet, hein, qui vient de temps en temps, une typologie de personnes assez, assez intéressante. On a une prof d'anglais. Hein, on a un peu tout ça. On a une personne qui est venue ici aussi, qui est une spécialiste de l'innovation territoriale, des projets de territoire, des choses comme ça. Donc, je dirais qu'on évoquait la question de la réussite. C'est moins, de mon point de vue, la notion économique, parce que là-dessus, on en reparlera. Mais que, je trouve que plus on est dans la diversité, plus on a franchi un cap dans la réussite du tiers-lieu. C'est véritablement d'avoir une communauté qui soit la plus diverse possible. C'est encore plus difficile à faire vivre et à constituer, il faut le reconnaître aussi.
Alors, les lieux où s'implantent les tiers-lieux, justement... Comment ça se passe ? Comment ça se décide de créer un tiers-lieu quelque part ? Et pourquoi quelque part, ici ? Par exemple, à Agora Gay ?
Alors, moi, j'ai l'impression qu'on peut quand même... On n'est pas obligé d'avoir un local super bien installé au début. Parce que si on dit que l'important, c'est la communauté, c'est les personnes qui vont avoir envie d'y venir et d'y porter des projets, on peut très bien commencer dans un local pas forcément super adapté, mais en faisant quelques aménagements pour démarrer. Et après, une fois qu'on se sent plus fort, on peut trouver un local plus grand. Après, bon, Agora Gay, ils ont eu la chance de pouvoir trouver tout de suite un local bien adapté. Donc c'est différent, mais on n'est pas obligé d'en passer par là, je pense.
Et Agora, c'est vraiment partie d'une dynamique d'entrepreneurs du territoire. Hein. Agora est située dans la zone d'activité de la Baronnie à Pont-de-Beauvoisin, qui fait partie d'une des plus grandes zones d'activité commerciale pour le bassin de vie dans lequel on se trouve. L'idée, c'était vraiment de se questionner sur les changements sociétaux. C'est une zone d'activité et en même temps aujourd'hui qui est assez concurrencé par le marché internet, le marché du web. Et donc la question des entrepreneurs, c'était de se dire, et si demain les modalités, les comportements changent complètement, comment est-ce qu'on fait pour survivre à ça? Et finalement, la question de ce tiers-lieu, elle s'appuie vraiment sur ces questionnements-là. Et donc, on a commencé par un espace de coworking, mais derrière, il y avait vraiment tous ces questionnements qui étaient importants.
Même pour rebondir sur cette problématique, et non pas invalider ce qu'a dit Véronique sur le fait qu'on a eu de la chance d'avoir ce local-là, je dirais que c'est peut-être une chance et en même temps, c'est presque un handicap. Parce que comme l'a évoqué Stéphanie, il est parti d'une volonté au départ essentiellement économique. Et pour certains des fondateurs, ça reste une donnée forte. Hein. Or, dans la vocation de ce qu'on a voulu faire, l'économie était certes un aspect, mais ça n'était jamais qu'un des aspects. Et il faut être clair, je ne crois pas qu'on puisse fondamentalement créer une communauté vivante en l'asseyant uniquement sur de l'économie. Hein, on est véritablement, et je dis ça d'autant plus facilement que je suis chef d'entreprise depuis près de 40 ans, donc j'ai aucun problème pour le dire, mais ce qu'on a voulu faire au travers de ces tiers-lieux, c'est la notion d'hybridation, de transversalité, de communauté, et elle ne peut pas être fondamentalement économique. Pas plus que ça ne peut être un Fab Lab, pas plus que ça ne peut être qu'un... je dirais, une librairie ou un espace strictement culturel, parce qu'à ce moment-là, on est uniquement dans l'entre-soi des gens qui ont un savoir. Hein, et je pense que ce n'est pas notre volonté ni notre vocation.
La vocation est plutôt de croiser des divers savoirs et sachants.
Ouais. Et de réinventer le monde dans lequel on vit, où on voit bien aujourd'hui à quel point il est nécessaire de redonner du sens commun. Oui.
À toute chose.
C'est aussi un peu pour ça, on pourrait presque le souligner, qu'on a appelé cet espace Agora, parce que dans l'étymologie, l'Agora, chez les Grecs, c'était la place où il y avait des marchands, où il y avait des hommes politiques, où il y avait des philosophes. Voilà. Alors, il n'y avait pas des entreprises, mais un commerçant, c'était un entrepreneur. Donc, on était à cette époque-là dans cette vision. C'était la place centrale du territoire aussi. Donc on a rêvé vouloir refaire ça.
C'est vraiment un lieu d'intersection, un lieu de rencontre. C'est vraiment ça qui est au cœur du tiers-lieu pour moi.
Moi, j'ai envie de rajouter, c'est un lieu où on ne doit pas être que consommateur. C'est un lieu où on devient aussi acteur de quelque chose, parce que si on est juste un lieu de consommation, c'est-à-dire on pourrait acheter un ticket de 10 jours de coworking et puis point, quoi. Et on donne un ticket à chaque fois et puis c'est fait. Mais ce n'est pas exactement ça, en principe, qu'on vient y chercher, en fait.
Alors, justement, être acteur, au-delà du fait d'échanger et de phosphorer avec les autres personnes, quand on vient, par exemple, à Agora, qu'est-ce que ça peut être ? Initiateur de projets, d'idées, de soirées thématiques de...
Effectivement, on est dans l'accueil et dans le soutien au développement d'un projet. Donc, par exemple, la lanterne est née de cette volonté d'un acteur du territoire depuis très longtemps qui se questionnait.
On peut juste rappeler ce qu'est la lanterne, Stéphanie.
La lanterne, c'est un magazine qui permet de mettre en valeur les pépites du territoire, les initiatives positives d'un territoire. Et on se proposait de parler aussi bien d'initiatives de Chartreuse pour aller jusqu'au département de l'Ain, les Vals du Dauphiné, le lac d'Aiguebelette, la Chartreuse. Voilà, de ne pas se limiter. Souvent, on se limite au
territoire.
Au territoire administratif. Or, un bassin de vie, ça n'a pas de frontières administratives. Et donc, sur ce bassin de vie qui va de la Chartreuse jusqu'au nord, à Yenne et au Val du Dauphiné. Bon, il y a la montagne de l'Épine qui vient clore un peu le lien au bassin chambérien quand même, tout ce territoire-là finalement, comment est-ce qu'il vit et la volonté d'en parler. Donc voilà, on a soutenu, il y a des comités de rédaction et on est allé chercher aussi des sponsors. Enfin voilà, comment la question c'était comment est-ce qu'on arrive à donner vie à un magazine sur un territoire. Voilà.
Un autre exemple tout récent, qui est par exemple cette jeune prof d'anglais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est venue nous voir il y a 15 jours en disant bah voilà, moi je donne déjà des cours d'anglais pour les particuliers. Et on a cherché avec elle à développer une offre qui, tout en étant économique, permette également d'apporter des réponses aux habitants du territoire, qu'ils soient adultes, par exemple pour partir en voyage à l'étranger, ou simplement pour se rafraîchir les idées, ou que ce soit des jeunes enfants à qui les parents souhaitent commencer à apporter la culture d'une autre langue. Donc voilà, c'est un exemple encore une fois du faire ensemble, où des gens viennent, et puis à partir de là, on essaye de rebondir sur ce qu'ils sont susceptibles d'apporter en bien. Notre vocation, nous... Et on n'a pas réemployé ce terme qu'on nous avait dit, on est des catalyseurs d'énergie.
Mais c'était à vous de le dire, pas à moi.
Enfin, on se veut catalyseur d'énergie.
Eh bien, nous, on va catalyser un nouveau morceau musical, si Fabien veut bien le lancer. Merci, et faire une petite pause à nouveau.
À Paris, dans la grande ville, dans une des plus belles maisons, à Paris, dans la grande ville, dans une des plus belles maisons, il y a une jeune barbière, 100 fois plus belle que le jour. Il y a une jeune barbière, 100 fois plus belle que le jour. Puisqu'on dit qu'elle est si jolie, je m'en irai pour la voir un jour.
Puisqu'on dit qu'elle est si jolie, je m'en irai pour la voir un jour.
Je partirai vers les minuits pour arriver au point du jour.
Je partirai vers les minuits pour arriver au point du jour.
Oh, à Paris, à mon arrivée, à la porte, 3 petits coups frappés.
À Paris, à mon arrivée, à la porte, 3 petits coups frappés.
Oh oui, oh oui, charmant jeune homme, tous mes rasoirs sont prêts pour vous.
Oh oui, oh oui, charmant jeune homme, tous mes rasoirs sont prêts pour vous.
Pendant qu'on lui faisait la barbe, 3 fois il changea de couleur.
Pendant qu'on lui faisait la barbe, 3 fois il changea de couleur.
Oh, qu'avez-vous, charmant jeune homme, a changé si souvent de couleur.
Oh, qu'avez-vous, charmant jeune homme, a changé si souvent de couleur.
S'ils sont mes rasoirs qui vous gênent, pourquoi me le dites-vous pas?
S'ils sont mes rasoirs qui vous gênent, pourquoi me le dites-vous pas?
Oh non, oh non, jeune barbière, ce sont les amours que j'ai pour vous.
Oh non, oh non, jeune barbière, ce sont les amours que j'ai pour vous.
Sont pas pour vous.
Mes amours, répondit-elle, mes amours ne sont pas pour vous.
C'est un marin qui les a, qui les mène depuis quand jusqu'à Cherbourg.
C'est un marin qui les a, qui les mène depuis quand jusqu'à Cherbourg.
Eh bien, c'était sympathique. Alors, un petit point sur lequel il faut quand même qu'on mette le doigt, Véronique, Stéphanie et Daniel, c'est que ces tiers-lieux, tout sympathiques qu'ils soient, restent quand même, d'un point de vue économique, des espaces assez fragiles. Est-ce qu'on peut développer un peu ça ?
Ouais, je pense que l'équilibre financier est difficile à trouver, puisqu'on a parlé de beaucoup d'activités qu'on pouvait venir y pratiquer, mais finalement, pas énormément d'activités qu'on peut, entre guillemets, facturer, donc pour en tirer des revenus pour faire vivre le tiers-lieu. Donc on a dit qu'il avait besoin d'être animé, d'avoir une communauté,
donc par une personne,
d'avoir des locaux,
notamment.
Donc des loyers, donc voilà. Etc. Il y a quand même un certain nombre de frais d'investissement et de fonctionnement qui peuvent être plus ou moins importants. Et c'est vrai que l'équilibre économique est difficile à trouver.
Est-ce que vous confirmez, Stéphanie et Daniel ?
Oui, c'est d'autant plus difficile en milieu rural, puisque en milieu urbain, tout repose quand même beaucoup sur les coworking et sur la nécessité de mutualiser un espace commun. En milieu rural, finalement, on a tous de la place chez soi pour travailler. Il n'y a pas cette nécessité-là. Donc, si on vient dans un espace de coworking, c'est vraiment pour y trouver tout ce qui est à côté et tout ce qui fait que c'est si important de sortir de chez soi pour trouver cette convivialité, une expertise, un soutien, un certain nombre de services. Ce qui est aussi déconcertant, c'est qu'effectivement, on est dans des lieux de service qui seraient presque ou qui seraient assez proches de l'idée de service public. Donc, voilà, il y a des modalités de partenariat, je pense, à trouver entre le public et le privé. Et on est en France sur des conceptions dans ce domaine-là qui restent un petit peu difficiles à mettre en place. Dans des oppositions, justement, hein, en France, on est encore beaucoup dans l'opposition. Il y a le service public, il y a le monde de l'entreprise. Et comme finalement un tiers-lieu essaye de décloisonner tout ça, c'est pas évident à faire comprendre aux différentes instances en question. Donc là, il y a un vrai enjeu sur la définition du modèle économique. Comment est-ce qu'on coordonne nos actions pour que finalement l'usager et le citoyen qui est au cœur des interrogations de ces tiers-lieux puisse être gagnant. Enfin, c'est un petit peu là la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucun lieu de ce type n'existe sans financement public fort, au moins pour le lancement et les premières années de croisière.
Oui.
Ça, c'est sûr. Tous les lieux privés qu'on a trouvés, effectivement, on est dans du bureau, dans un service qui est facturable et qui est fortement facturable. Après, les autres lieux, ils ont été créés sur la base de convictions politiques d'une intercommunalité ou d'un... pas département, mais en tout cas, oui, d'intercommunalité qui était fortement convaincue qu'il fallait répondre à ce nouveau besoin-là.
Daniel ?
Je crois que Stéphanie vient de poser assez clairement les grandes potentialités, la difficulté de trouver un équilibre économique. Soyons clairs, dans notre pays, et à la différence de ce qu'on a pu voir dans d'autres territoires européens, d'autres pays européens, on a encore beaucoup de mal du fait de la forte présence de notre administration à vivre le partenariat public-privé. Hein, globalement, on pourrait presque dire que ça n'existe pas. Hein. Or, c'est fondamentalement ce qu'on essaye de faire. Donc, c'est un peu difficile de faire émerger ce genre de problématique. Et pour opposer, par exemple, deux types de tiers-lieux, un qui, à notre avis, ne l'est pas, on aurait pu, et par certains aspects, on le fait, une agence immobilière qui va diviser ses locaux et qui va avoir des tickets ou un dispositif d'accès sur Internet, c'est très facile à faire. Et économiquement, c'est pas extraordinaire en zone rurale. En zone urbaine, c'est beaucoup plus rentable. En zone rurale, ça l'est pas nécessairement. Donc les gens viendraient louer un espace, viendraient prendre des tickets. Ça fait un espace de coworking. Pas de problème. Économiquement, c'est pas extraordinaire. Mais en gros, c'est une agence immobilière partagée, quoi, en quelque sorte. Bon. Ça fait pas pour nous un tiers-lieu. À l'inverse, on a de vrais tiers-lieux comme peuvent l'être, enfin, dans notre esprit, comme peuvent l'être au SAPE ou ce qu'on a vu aux Adrets. Et alors, je ne connais pas le modèle économique du SAPE, mais ce qu'on a vu aux Adrets, il nous a été dit très clairement, c'est que c'est non seulement du bricolage dans l'état d'esprit, mais c'est aussi du bricolage économique. Hein, c'est-à-dire que ben là, comment dirais-je, l'avenir est toujours incertain, hein, parce que même s'il y a une communauté, ben une communauté de bénévoles, on sait toujours que ça s'épuise, hein, ou ça se fatigue. Et puis les modèles économiques qui s'appuient sur des subventions, ben les subventions, c'est aléatoire, on le sait tous. Donc effectivement, je crois que le vrai tiers-lieu, il est structurellement aujourd'hui fragile. Hein. Alors je ne sais pas si ça me permet d'introduire la suite du débat, mais les pouvoirs publics, qu'on critique souvent, mais donc on ne va pas faire de politique, néanmoins, il y a un an, on fait faire par un groupe, je dirais, de gens experts, tant pis, mais le plus diversifié possible, ils ont fait faire une étude qui est sortie au mois de septembre l'année dernière, qui est assez remarquable et qui fait essentiellement un état des lieux des tiers-lieux en France et qui a posé à cette époque-là une problématique, effectivement, qui est celle que je viens de vous livrer, à savoir que les vrais tiers-lieux sont par nature très fragiles, même quand ils sont portés par une intercommunalité. Bah là, encore une fois, l'intercommunalité va dire oui jusqu'au moment où elle va dire non, hein, ou parce qu'il y a eu un changement politique. Donc aujourd'hui, les tiers-lieux, on pourrait presque dire qu'ils n'ont pas de... Il y a très peu, voire pas de tiers-lieux, qui aient une perspective de pérennité économique fiable. Donc l'État a pris conscience de ça et vient de sortir ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, au mois de juillet de cette année, qui propose pour 150 tiers-lieux en zone urbaine sensible et 150 tiers-lieux en zone rurale, donc sur toute la France, qui propose de les accompagner financièrement ou économiquement sur 3 ans. Alors, avec, donc là, c'est un vrai projet, hein, donc on est sur 3 ans. À condition qu'ils portent un projet. Ça peut être soit de les aider sur des locaux, soit de les aider sur un mode de fonctionnement, soit de leur permettre de trouver les éléments d'un partenariat public-privé leur apportant des recettes durables. Hein. Voilà. Donc l'État a pris conscience de ça. Il vient de produire cet AMI. Et nous, on se penche très activement dessus pour être candidat à ce... à cet AMI. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de critères dont on parlera, mais je vais laisser mes collègues parler parce que j'ai été beaucoup trop long comme d'habitude.
Il y a une petite recette, Véronique, ou une petite potion magique de base sur l'aide de l'État pour accompagner la naissance d'un tiers-lieu.
C'est-à-dire les points sur lesquels l'aide de l'État pourrait porter.
Voilà.
Oui, alors ce qui a été identifié, c'est souvent la difficulté de trouver un local quand même pour démarrer, qui peut être là un coût financier assez important de location, puis de rénovation avant, etc. Et donc effectivement, l'État propose d'étudier la mise à disposition de locaux publics, hein, mais vacants, au moins pour un temps d'expérimentation et pouvoir lancer des choses, quitte à déménager ensuite, ou enfin en tout cas voir si la formule peut fonctionner. Il y a aussi une proposition d'aider à l'investissement pour le matériel. Et puis il y a aussi une proposition de considérer que certains tiers-lieux en zone rurale pourraient devenir des sortes de têtes de réseau, c'est-à-dire ceux qui sont déjà lancés, déjà en activité, mais pourraient aider la création d'autres, pas très éloignés, enfin suffisamment quand même pour que ça soit pas les mêmes personnes qui les fréquentent, hein, mais pourrait les aider en une sorte de parrainage, on peut dire, d'entraide à décoller et mutualiser certaines choses, certaines animations, un savoir-faire, etc.
Comme voilà. Agora pourrait le faire comme pour Agora, la ville de Saint-Laurent-du-Pont.
Pourquoi pas.
Et puis, avec un budget de 45 000 euros...
45 millions.
Ah, millions. Ah, non, oui, je me disais, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est le total de budget mis par l'État, 45 millions d'euros, sur 300 lieux au niveau national. Okay. Sur 300 lieux, donc là, voilà, ça fait un petit peu de sous quand même.
Oui, si on divise par 300, c'est pas mal. D'accord.
C'est pas mal.
Alors, il a également créé un Conseil national des tiers-lieux, l'État.
Oui, mais je crois que c'est vraiment une problématique qui intéresse beaucoup le gouvernement parce qu'ils ont reconnu que c'était des lieux d'innovation, de mixité, et c'est aussi des structures qui peuvent venir dans des zones, on va dire, peut-être délaissées par certains services publics, mais qui ont besoin de continuer à vivre, donc des structures qui peuvent irriguer des territoires de façon intéressante.
Alors, non seulement les irriguer, mais également répondre à des vrais problèmes, comme la fracture territoriale,
voilà.
Par rapport aux services publics, notamment, il n'y a pas des maisons... Comment ça s'appelle, ces maisons
MSAP.
Et traduction pour le...
Maison de service au public.
Voilà, maison de service au public, il n'y en a pas partout. La réponse à la fracture numérique et des lieux de culture, de mixité, de vivre ensemble, oui. Fabrique de liens sociaux.
Donc là, on voit vraiment tout l'esprit tiers-lieu avec des tas de choses rassemblées au même endroit pour répondre à différentes problématiques et attirer différentes personnes. Effectivement, la réponse à la fracture numérique, c'est aussi intéressant quand on a déjà des équipements, du réseau, etc. Pourquoi pas de proposer des ateliers d'initiation, de proposer...
Ce que fait bien notre centre social à Saint-Laurent.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, le centre social peut aussi être considéré comme un tiers-lieu de ce point de vue-là.
Un tiers-lieu qui s'ignore sans doute, mais un tiers-lieu.
Oui, parce qu'on fait de la prose sans le savoir.
Voilà, exactement.
Mais c'est vrai que cet ami, il va soutenir des initiatives qui se proposent d'être... des fabriques de territoire. Donc on est vraiment sur la notion de faire grandir un territoire, de l'animer et d'être, d'un certain point de vue, à son service aussi, au service du citoyen.
Oui,
donc ça crée enjeu, mais ça permettra de belles réflexions, en tout cas, en perspective.
Charge aux citoyens de prendre le bâton qui leur est tendu. Alors, y a Véronique, il y a peut-être des événements à annoncer du côté d'Agoraguier ou des Amis du Parc avant de conclure cette émission.
Allez, priorité à nos invités, Agoraguier.
Dans les événements, on va en livrer de nature complètement différente. Comme ça permettra de voir qu'il y a, on a prévu, donc il y a plutôt en cours une très belle exposition d'une artiste qui n'est pas véritablement de territoire puisqu'elle est de Bourgoin-Jallieu, mais dont personnellement je goûte beaucoup les tableaux, qui est art thérapeute par ailleurs, donc qui expose à l'heure actuelle, l'entrée est gratuite et on peut bien sûr acheter. Donc cette exposition a lieu jusqu'à, je crois, début octobre, quelque chose comme ça. Mi-octobre, on aura une conférence destinée là essentiellement aux entreprises qui est sur la thématique la stratégie d'entreprises. Mais là, encore une fois, notre cible, c'est pas les grandes entreprises parce qu'elles sont assez grandes pour développer leur stratégie. C'est surtout les toutes petites entreprises qui seront visées. Mais c'est pas de mal de leur proposer un petit peu de savoir-faire. Et de savoir-faire, je dirais, concret. Hein. C'est pas de la grande expertise, c'est du concret, du bon sens. Et puis, allez, lâchons le projet, puisque au travers de l'AMI, il faut bien le comprendre comme tel, l'État a proposé à 150 fabriques de territoire, donc il n'en retiendra pas beaucoup plus, mais peut-être moins. Ça ne fait pas tant que ça sur la France, ça fait une ou deux par département, quand on regarde bien. Donc, il propose surtout d'apporter son aide aux espaces ou aux structures qui auront apporté la preuve d'être en mesure de regrouper des initiatives de territoire. Hein. Il est clair que pour les toutes petites structures, peut-être comme le SAPE ou comme les ADRE, ça sera difficile de porter un projet d'ensemble, parce qu'une brasserie, c'est pas nécessairement reproductible. Bien que dans l'AMI, dans ce qu'a évoqué tout à l'heure Véronique, il y a quand même l'idée de constituer cette notion de tête de réseau. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas c'est pas des filiales, hein, c'est de faire profiter un territoire d'un minimum de savoir-faire sur la constitution de dossiers, d'animation commun, et que ces espaces puissent apporter, enrichir l'un l'autre. Hein. Donc, en projet, et même un peu plus qu'en projet, on doit ouvrir un espace à Novalaise, hein, qui est pas très loin de Pont-Beauvoisin, mais quand même qui est une zone encore déjà un peu éloignée, et surtout parce que dans le cadre de l'élaboration d'un projet de territoire, les citoyens attendent ce projet-là. Donc on va essayer d'apporter une réponse qui sera différente de Pont-Beauvoisin. Et Véronique, qui nous a rejoint il y a 3-4 mois de ça, rêve, et vous l'avez partagé tout à l'heure, rêve que Saint-Laurent-du-Pont puisse voir éclore, là aussi, voir éclore quelque chose de similaire, mais en même temps différent, parce que Saint-Laurent-du-Pont n'est pas Pont-Beauvoisin, et on pourrait très bien imaginer, et Novalaise non plus, donc avoir des typologies d'espaces différents, mais qui travaillent ensemble et à ce moment-là qui bénéficient de cet ami. Voilà. Donc ça fait partie de nos projets, de nos intentions. Mais en tout cas, Novalaise, c'est plus qu'un projet, puisque c'est pour le mois d'octobre.
Véronique, du côté des Amis du Parc.
Et du côté des Amis du Parc, moi, je voudrais signaler l'actualité qui se rapproche à vitesse grand V. C'est le 12 octobre, samedi 12 octobre. C'est la journée de ramassage organisée par le collectif Chartreuse Propre en 4 points du territoire, donc avec, bien sûr, les Amis du Parc et plein d'autres. Donc, rendez-vous sur le site chartreusepropre.org, je crois, pour vous inscrire. 4 lieux, le samedi 12 octobre, ouverts aux familles. On peut même accepter les enfants, mais sous la surveillance de leurs parents, bien sûr. Il n'y aura pas, cette fois-ci, je crois, de ramassage trop technique, trop scabreux, trop dangereux. On ne mettra pas la main dans les carcasses de voitures et dans les bidons de produits chimiques abandonnés au fond de l'eau. Donc tout le monde ou quasi tout le monde peut participer, et je crois qu'on a déjà beaucoup d'appels et de mails pour dire on vient à 10, on vient à 3, donc venez, il y a de quoi faire.
Vive la conscience citoyenne.
Tout à fait.
C'est bien. Eh bien, est-ce qu'on se fait un dernier tour de table pour le mot de la fin concernant cette émission consacrée au tiers-lieu? Non. Un vœu pieux, peut-être, celui d'en créer un sur Saint-Laurent, avec Véronique, je note, moi,
restons,
de mon côté.
Restons sur cette idée que Saint-Laurent-du-Pont accueillerait avec grand plaisir, certainement, un tiers-lieu. Mais il faut qu'on fasse la communauté d'abord, Sophie.
Yes, no problemo. Messieurs, dames, je vous remercie. Daniel, au revoir, à bientôt.
Au revoir, Sophie.
Au revoir, Stéphanie, merci.
Merci à vous, et puis que vive l'envie de faire ensemble.
Pas de problème à ce niveau-là. Et Véronique, à très bientôt, bien évidemment.
À bientôt.
Et bonne fin de journée.